petites et grandes chroniques du Burundi. Situé en plein cœur de l'Afrique équatoriale, sur les rives du lac Tanganyika, ce petit pays entretient une relation de coopération avec la région des Pays de la Loire. La mission des lycéens sartois a été financée dans le cadre du programme d'action éducative régionale. Deux missions. Tisser des liens plus étroits avec les partenaires, l'école internationale de Bujumbura, le lycée du Saint-Esprit et la radio CCIB-FM. Réaliser de nombreux entretiens afin de mieux faire connaître le Burundi auprès des Ligériens sur leur radio. Élise, Kitty, Laura, Laurine, Marine et Quentin vous proposent Petite et Grande Chronique du Burundi.
Jean-Claude Ndayishimiye est le chef du parc national de la Rusizi. Situé à l'embouchure du fleuve, là où il se jette dans le lac Tanganyika, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bujumbura, ce parc préserve l'écosystème. On peut y voir de nombreuses espèces végétales et animales, dont les plus emblématiques sont les hippopotames et les crocodiles. La région des Pays de la Loire soutient ce parc.
Pouvez-vous nous parler des différentes espèces d'animaux qui sont présentes au parc ?
Les différentes espèces d'animaux que nous avons au niveau du parc national de la Rusizi, il y a les crocodiles du Nil, espèce Crocodilis niloticus, c'est une espèce qui est en voie de disparition partout dans le monde, comme c'est, ça a été donné au niveau de la convention sur le commerce de la faune et de la flore, CITES, mais également aussi au niveau du parc, cette espèce de crocodile est en voie de disparition, mais quand même il y a quelques individus qui nous laissent. Deuxièmement, nous avons les hippopotames. Au niveau de la Rusizi, il y a environ 5 à 6 familles. Alors, dans chaque famille, nous comptons estimativement entre 30 et 50 individus. Il y a également une autre espèce que nous avons, c'est les antilopes de deux types. Il y a ce qu'on appelle les sitatunga, ce sont des espèces d'antilopes qui sont aussi en voie de disparition partout dans le monde, surtout en Afrique, par le braconnage. Mais ici, au niveau du parc, il y a quelques individus qui restent au niveau des lagunes. Il y a aussi une autre type d'antilope que nous avons, mais aussi qui est menacé par le braconnage parce que les gens de Limbo aiment la viande, alors ils menacent cette espèce par le braconnage, mais aussi il y a quelques individus qui nous laissent. Il y a une autre espèce d'animaux que nous avons, ce sont les oiseaux migrateurs et les oiseaux sédentaires. Les oiseaux migrateurs nous viennent de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, mais également de l'Afrique australe. Et alors, ils viennent par saison quand il y a un changement climatique au niveau de l'Europe. Par exemple, pendant l'hiver, il y a beaucoup des oiseaux qui viennent pour passer quelques mois au niveau du Burundi, précisément, dans le parc national de la Rusizi, plus précisément le secteur Delta où nous sommes.
Est-ce qu'il y a des espèces plus protégées que d'autres ?
Je crois que le niveau de protection pour toutes les espèces est le même, parce que ici c'est dans une aire protégée où nous sommes appelés à protéger et la biodiversité qui est dans le parc, que ce soit la biodiversité végétale ou animale.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier au parc Rusizi ?
La particularité de notre parc par rapport aux autres parcs, d'abord c'est un parc urbain qui est à quelques kilomètres de la capitale. Une autre particularité, c'est qu'au niveau de la Rusizi, il y a une espèce végétale qu'on appelle l'Iphaen petersiana. C'est un arbre qui ressemble beaucoup au palmier à l'huile. Alors cette espèce n'existe nulle part dans le monde sauf dans le parc national de la Rusizi. Deuxièmement, au niveau de la région de Limbo où se trouve le parc, il y a les phlegmites ou les roseaux. C'est une espèce végétale qui est convoitée par la communauté rivelaine et qui est exploitée par cette même communauté et qui fait vivre pas mal de familles au niveau de la région rivelaine de ce parc. En peu de mots, le parc a une particularité aussi au niveau de l'espèce végétale parce que c'est une savane, alors qu'au niveau du Burundi, je crois que c'est parmi les rares aires protégées qui est composé par une espèce végétale, la savane. Parce que dans la savane, c'est là où on peut avoir beaucoup d'animaux. Alors, dans le temps, c'était toute la plaine d'Olimbo qui était en, comment dirais-je, en demeure pour les animaux. Mais c'est avec les moments difficiles que le pays a traversé, il y a eu un braconnage de façon élevée et ces animaux sont disparus. Alors, dans le parc, c'est le seul endroit, c'est un refuge qui reste pour le paix d'animaux qui nous reste. Alors ça aussi, c'est une particularité. Dans d'autres régions, je dirais que le paix d'animaux qu'ils ont, oui, c'est vrai, le braconnage se fait partout dans les aires protégées, mais c'est de façon exagérée au niveau de la Lucize.
Quelle est la superficie du parc?
Le parc actuellement compte 10 673 hectares. Mais dans le temps, avec le nouveau décret du 14 novembre 2011, mais en 2012, c'était la réserve naturelle de la Lucize qui comptait environ 5000 hectares. Alors, on a révisé alors le décret pour le moment et on a étendu les dimensions, la superficie du parc, de cette aire protégée. Actuellement, c'est 10 673 hectares.
Pouvez-vous nous parler des actions de protection qui sont menées sur le parc?
Bon, les actions de protection qui sont menées au niveau du parc, d'abord il y a la surveillance qui est assurée par les gardes forestiers, comme vous les avez vus, ils sont en uniforme, ce sont, comment dire, des agents patrouilleurs qui font quotidiennement la surveillance du parc pour soit appréhender les délinquants, les gens qui viennent pour exercer des activités interdites au niveau du parc. Ça, c'est vraiment une action que nous menons chaque jour. Deuxièmement, dans la surveillance, nous travaillons avec la police quand des fois nous attrapons les gens qui sont en train de faire des infractions, de mener des infractions. C'est la police qui nous appuie pour les appréhender et les traduire en justice. Et nous travaillons également avec les autorités locales, c'est-à-dire les administrateurs, les chefs de zone. Ils nous appuient également pour sensibiliser la communauté. Et il y a également des associations avec lesquelles nous travaillons pour nous aider dans la protection du parc. C'est aussi, nous travaillons avec la justice, parce que quand il y a des gens qui sont traduits en justice, vous comprenez que c'est la justice qui va trancher. D'autres actions pour protéger le parc, c'est l'aménagement. Il y a des aménagements que nous faisons. Des fois, il y a des aménagements que nous faisons pour que nous permettons que les animaux puissent survivre. Ça aussi, c'est la protection. Comme si je peux citer l'arrachage du lantana, la lutte contre le lantana, la plante invasive. Quand nous arrachons nous luttons contre le lantana, c'est une façon de permettre la reprise des espèces endémiques, les herbes, qui vont servir d'alimentation pour les animaux herbivores. Parce que avec le manque des herbes, les animaux vont quitter le parc pour aller chercher de quoi manger en dehors du parc. Et là, les gens vont tuer les animaux. Là, vous comprenez que ça, c'est une bonne protection. Mais quand nous luttons contre le lantana et que nous permettons la reprise, la régénération naturelle des herbes qui servent d'alimentation pour les animaux, vous comprenez que nous protégeons les animaux. Il y a aussi la sensibilisation que nous faisons pour convaincre la communauté riveraine à faire aussi de s'impliquer dans la protection du parc, lequel parc a une importance capitale dans la vie de la communauté riveraine, des Burundais et des futures générations. Bon, en peu de mots, ce sont ces actions que je viens de citer que nous menons au niveau de la protection du parc.
Quel est le taux de fréquentation et qui est-ce qui vient au parc?
Nous avons un rythme de visiteurs qui est vraiment appréciable parce que nous comptons par semaine environ 100 visiteurs qui viennent visiter le parc parce que nous avons des belles choses à montrer, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Il y a des gens qui viennent regarder tout simplement un endroit qui est calme, qui est frais, parce que vous voyez que c'est tout près de la ville et dans la ville de Bujumbura avec le climat d'Olimbo, c'est chaud. chaud, les gens alors aiment venir passer les moments pour la distraction, mais également pour prendre une pause, être dans un endroit calme, serein, pour quand même rafraîchir la mémoire, pour oublier peut-être les différentes préoccupations. Alors, il y a aussi des gens qui viennent regarder les oiseaux parce qu'il y a des ornithologues, bien des gens, d'autres gens qui sont intéressés par les oiseaux. Ils viennent passer pas mal de temps dans le parc en observant les animaux. Il y a des gens qui s'aventurent pour venir compter le nombre d'oiseaux, compter les différentes espèces. Là, c'est aussi vraiment une activité qui attire les touristes. Il y a des gens qui viennent regarder les hippopotames. Il y a des gens, même qui ont l'habitude de nous demander de venir passer la nuit dans le parc pour observer comment les animaux sortent de l'eau, c'est-à-dire les animaux qui vivent dans le milieu lacustre, qui sortent de l'eau pour l'eau, aller brouter. Je peux vous donner un exemple dans quelqu'un qui s'appelle Yves Gogri. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le parc. Il a l'habitude de venir passer la nuit dans le parc pour observer les animaux, observer les rapaces. Il y a d'autres qui nous demandent ça, mais quand même, un peu de mots, je crois que par semaine, il y a des visiteurs qui, au nombre de 100, qui viennent visiter le parc.
Pouvez-vous nous parler du mode de vie des crocodiles ?
Les crocodiles, le mode de vie. Les crocodiles, c'est un animal lacustre qui vit dans le milieu lacustre, qui vit dans l'eau. Alors, c'est un animal aussi carnivore. Il consomme de la viande. Pour vivre, alors, un crocodile doit manger soit les poissons ou d'autres animaux. Il y a aussi une alimentation qui vient en dehors des lacs. Ça, je peux dire, les vaches, les moutons, les chèvres, mais aussi les chiens. Ils consomment en amont de la viande. Alors, pour se reproduire, d'abord, ils pondent des œufs, et puis au niveau du sable. Dans le sable, après quelques temps qu'on n'a pas encore compté, il y a l'éclosion et les petits crocodiles sortent. Et comme ça, c'est la façon de reproduction, comment ils se reproduisent. C'est quand il y a de l'eau pour l'accouplement, l'accouplement se fait dans un endroit où il y a beaucoup de l'eau. C'est aussi, il consomme, mais aussi quand il y a, vous comprenez, quand un animal est un carnivore, mais il peut même consommer les humains. Un peu de mots, c'est ça ce que je peux dire sur le mode de vie des crocodiles.
On a beaucoup entendu parler de la légende de Gustave le crocodile. Pouvez-vous nous en parler ?
La région de Gustave, où vivait le Gustave dans le temps. Oui, Gustave, c'était un crocodile qui a vécu ici, au niveau de la Lucizie. C'était vraiment un crocodile très géant. Dans le temps, quand il existait encore, on dirait qu'il mesurait plus de 10 mètres. Mais il y avait quelqu'un qui voulait l'élever dans un bassin qu'il a construit. C'est un Français qui s'appelait Patrick Fay. Et puis, il n'a pas pu l'équiper de la Lucizie pour l'amener au niveau du Gustave, de son bassin. Vous allez le voir quelque part ici, le bassin. Mais malheureusement, après cette tentative, Gustave est disparu. Et je crois que jusqu'à maintenant, personne ne connaît où il est. Peut-être qu'il est parti soit en Zambie. Les autres disent qu'il y a les Congolais qui l'ont pêché et l'ont consommé. Ça, c'est pas vraiment vérifié. Mais au niveau de la Lucizie, dernièrement, nous avons vu un autre crocodile, Géa, mais pas à la même dimension que Gustave. Et le premier qui l'a vu, là, c'est nommé fils de Gustave. On se demande toujours est-ce que c'est vrai ou pas, mais sur Gustave, vraiment, je ne peux pas vous donner plus de détails. Tout simplement, il est disparu.
Et cette fois-ci, est-ce que vous pouvez nous parler du mode de vie des hippopotames ?
Oui. Les hippopotames, ce sont des animaux herbivores. Ils vivent dans l'eau pendant la journée, mais quand la nuit tombe, les hippopotames sortent de l'eau pour aller brouter les herbes. Quand il manque de l'herbe, il peut même brouter les cultures. Alors, les gens ont peur des hippopotames parce que quand un hippopotame est agressé, il peut même couper en deux morceaux une personne, mais sans toutefois le manger. C'est vraiment une façon de se défendre. Aussi, nous avons l'habitude d'observer un hippo manifester un comportement agressif quand il a un bébé, quand il a mis au monde un enfant, il ne faut pas aussi s'approcher d'Oripo. Il est comme la vache, et son mode de reproduction est identique à la vache. Et aussi, il met au monde un seul génisse ou un seul petit par an. Et la période aussi de gestation, c'est aussi 9 mois comme la vache. Il y a aussi une certaine particularité. Quand un hippopotame met bas un génisse mâle, sa maman doit aller cacher le bébé loin de son père parce que il y a le complexe d'Édipe qui est aussi développé au niveau au sein des hippopotames. Quand le père voit le fils, il le consomme. Oui. Bon, enfin, il y a vraiment des bagarres qui va mener à la mort du petit. Et aussi, c'est l'identique pour les génisses femelles. Quand sa mère se fâche, automatiquement, il va attaquer sa génisse femelle. Vous voyez? Alors, c'est ça le comportement que je l'ai nommé complexe d'Édipe. Voilà, c'est un peu de mot que je peux dire sur le mode de vie des hippopotames. Mais aussi, un autre jour, les hippopotames vivent en famille. Et les individus d'une famille ne peuvent pas se mélanger avec les individus de notre famille. Si une fois ils se rencontrent sur le terrain, c'est le combat. C'est ce que nous avons observé. C'est aussi une des causes qui fait qu'il y a des morts au niveau des hippopotames. Parce que quand ils se bagarrent et qu'il y a une blessure qui est causée sur le corps, ça devient l'origine de la mort. Parce que quand il retourne dans l'eau avec la blessure, la blessure va commencer à pourrir à cause de l'eau. Vous voyez, et ça ne peut même pas durer 2 à 3 jours. Quand un hippo est blessé, 2 à 3 jours après, c'est la mort.
Y a-t-il beaucoup de bébés qui naissent?
Oui, il y a beaucoup de bébés qui naissent. Quand on visite les hippos, on a l'habitude de trouver des bébés dans chaque famille. Et il y a aussi un autre comportement que j'ai oublié. Quand il y a 2 ou 3 taureaux, si j'osais les appeler comme ça, taureaux, dans une famille, il y a souvent des combats parce que, chacun veut dominer. Et il veut dominer, avoir beaucoup de femmes au sein de la famille. Alors, l'autre, lui, il y a la compétence. Et c'est aussi une cause qui fait la mort au niveau des hippos. Alors, les bébés naissent souvent dans chaque famille et c'est facile à observer. Et quand ils sortent pour aller brouter, on peut facilement voir les bébés qui sortent avec les parents.
Nous avons entendu parler qu'il y aurait des serpents au parc naturel, donc pouvez-vous nous en parler?
Oui, bon, on n'a pas encore fait l'identification ou l'inventaire des différentes espèces de serpents que nous avons. Mais à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, ici à côté, il y avait des serpents très géants. On a fait des estimations, je crois que chacun d'eux mesurait entre 5 à 6 mètres. C'était vraiment des serpents très géants. Mais à cet endroit, il y avait beaucoup de gens qui passaient pour voir. Mais à partir du mois, fin octobre, nous n'avons pas encore vu ces serpents. Ils étaient au nombre de 3. On pense que les gens les ont consommés.
Est-ce que la régulation est pratiquée au Burundi?
La régulation de quoi?
La régulation des animaux.
Des animaux. Bon, je crois que nous, ça se fait naturellement parce que le président a signé la déclaration contre le braconnage. C'est interdit. On ne peut pas ni chasser ni tuer l'animal au Burundi. Mais vous comprenez que nous comptons, que ce soit le parc de la Lusizi ou d'autres aires protégées, il y a peu d'animaux à cause du braconnage qui se fait discrètement. Alors, c'est ça, enfin, la régulation, pour nous, ça se fait de façon naturelle.
Y a-t-il des zoos au Burundi?
Bon, les zoos ne sont pas permis, mais dans les différents ménages, mais également dans différents bars. Il y a des gens qui viennent, ils chassent ou ils pêchent un animal, par exemple un crocodile, et puis ils l'élèvent chez lui, même si c'est interdit. Parce qu'il y a des gens qui se croient qu'ils sont au-dessus de la loi et qui utilisent leur poste politique pour faire même ce qui est contre la loi. Alors, ça, on peut les appeler des zoos, même si ce n'est pas autorisé. Ici, à côté, il y a quelqu'un qui a un crocodile, il a un chimpanzé, un singe, il a les serpents. Ça, c'est une forme de zoo, mais ce n'est pas permis. Mais comme il est fort, lui aussi, même si c'est un paysan, mais qui est soutenu par les gens regladé au niveau de l'armée, au niveau de la police, ils nous ont imposé de l'aider pour avoir un espace un peu suffisant, large, au niveau du parc pour faire la promotion de l'écotourisme avec ces animaux qu'il a chassés ou qu'il a pêchés au niveau du parc. Vous comprenez, c'est une forme de zoo, même si ce n'est pas permis, parce qu'au Burundi, vraiment, des zoos ne sont pas permis.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la région des Pays de la Loire a fait pour ce parc ?
Oui, la région Pays de la Loire a fait de grandes choses au niveau du parc, parce que ni était l'appui financier, mais également technique. Le parc ne serait pas comme il est aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont appuyé au niveau de l'aménagement du parc, au niveau de la lutte contre l'antana, parce que c'est grâce à les financements que nous avons pu engager, une main d'œuvre qui a travaillé de façon vraiment, louable dans la lutte contre le l'antana. Parce qu'ils ont fait le rachat, je dis l'antana, sur une superficie très vaste qu'on n'a pas encore comptée. Mais également, les pistes de pénétration qui nous permettent de faire visiter les visiteurs dans le parc étaient impraticables dans le temps. Mais suite à ce financement, pour le moment, on peut même passer dans ces pistes avec des voitures des boîtiers de promenade. Mais également, nous avons pu protéger le parc contre le feu de brousse parce que nous avons tracé les pare-feux. Et vous comprenez, pour tracer un pare-feux qui traverse le parc au milieu ou bien qui subdivise le parc en deux ou trois parties, ça demande des sous. Ça demande une main d'œuvre qui travaille pas moins de 2 semaines. Alors, c'est grâce à ce financement. Mais également, nous avons pu faire la visualisation. Nous avons mis en place des pancartes pour montrer le parc. Il y a une autre chose, il y a un véhicule pour la surveillance qui c'est là. D'ailleurs, on a déjà engagé les fonds. Dernièrement, on nous a parlé qu'avec, on arrive au niveau de Dar es Salaam, en Tanzanie, en provenance du marché vers le Burundi. C'est-à-dire que le véhicule va nous parvenir très, très, très tôt. Je crois que c'est vers la fin de ce mois qu'on va avoir le véhicule pour appuyer au niveau de la surveillance. Et ça, c'est vraiment une chose très importante pour le parc, parce que vous comprenez qu'à Apio, on ne peut pas surveiller à 10 000 hectares. Mais avec le véhicule, on pourra facilement patrouiller le parc. Dans un petit moment, on pourra déplacer les gardes forestiers. On pourra répondre à tout appel, parce qu'il y a des fois où on nous appelle en disant il y a quelqu'un qui est en train de détruire, de faire des... Par exemple, il y a un hippo qui est mort à 10 km, vous comprenez que ce n'est pas facile, mais avec cet appui, on pourra facilement faire la patrouille de façon vraiment, comment dire, de façon aisée. Également, ils nous ont appuyés au niveau de l'élaboration d'une stratégie de surveillance. Ça aussi, c'est un outil qui nous servira beaucoup plus au niveau de la surveillance. C'est le document a été déjà élaboré et validé. Nous l'avons ici. Et aussi au niveau de la communication, on nous a acheté des appareils pour pouvoir communiquer avec les gens sur terrain. Et ça, c'est vraiment une autre chose très importante. Et dernièrement, bon, on m'a informé qu'il y a des uniformes qui sont arrivés pour les gardes forestiers. Ça, c'est vraiment aussi un appui très important. Bon, un peu de mots, avec la coopération entre le Burundi et la région Pays de la Loire, le parc a été très bien aménagé. Au niveau de la surveillance, il y a une amélioration. En tout cas, il y a vraiment un impact positif qui découle alors de cette coopération. En tout cas, nous saluons vraiment, nous apprécions l'appui de la région Pays de la Loire pour le Burundi, mais plus spécifiquement pour le parc de la Loire.
On vous remercie pour vos réponses très claires. Merci. Et merci de nous avoir accordé cette interview.